VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. La lutte contre les djihadistes au Sahel, pas de publication avant janvier 2018 des conclusions de l'enquête sur l'embuscade qui a causé la mort de 4 militaires américains et d'au moins 4 soldats nigériens début octobre au Niger. Selon un communiqué du Pentagone cité par l'AFP, les familles des victimes américaines ont été informées du fait que les enquêteurs du commandement américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, allaient devoir se déplacer en Afrique, aux États-Unis et en Europe pour rassembler des informations relatives à l'enquête. Mauritanie, la cour d'appel de Ouagadougou dans le nord du pays rend son verdict ce jeudi dans le nouveau procès en appel d'un blogueur en prison depuis 2014 pour blasphème. Le procureur a de nouveau requis la peine de mort contre Mohamed Nkaitir, en prison depuis 2014 pour les faits qui lui sont reprochés. La Cour suprême avait cassé la première condamnation à mort et demandé une recomposition de la Cour qu'il avait jugée. Pour leur part, les ONG de défense des droits de l'homme demandent sa libération. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Kine Fatim Diop, chargé de plaidoirie à Amnesty International.
Son état de santé s'était détérioré ces derniers mois et son moral a été affecté également. Vous le savez bien, ça fait plus de 3 ans que Mohamed Tira a été en détention. Lors de ses premiers 6 mois de détention, il était isolé, seul dans une pièce, sans possibilité de lire, sans accès à une douche ou des toilettes. Donc il a été très affecté par ses premiers mois de détention. Il vit à Ouagadougou, loin de sa famille, de ses proches. Donc ça intensifie la difficulté. Mais malgré tout cela, il reste courageux et espère que la justice mauritanienne pourra le libérer et le laisser vivre dignement après sa libération.
On a quand même vu une forte pression ces derniers temps sur les juges avec toutes ces manifestations pour qu'ils soient exécutés. Qu'espère Amnesty International dans ce contexte?
Oui, il y a eu pas mal de pression ces dernières années pendant les différents jugements avec des protestations de masse. On espère vraiment que cette fois-ci, la justice ne va pas céder à cette pression-là et que Mohamed Tir sera libéré. On pense vraiment que son jugement est un revers à la liberté d'expression et que Mohamed Tir est pour nous un prisonnier d'opinion qui est condamné juste pour avoir exprimé son avis sur les discriminations en Mauritanie et pour s'être levé contre les discriminations. C'est pour cela qu'on demande vraiment sa libération immédiate et sans condition.
Et que fait Amnesty International et d'autres ONG pour l'aider sur place?
Alors Amnesty suit le cas de Mohamed Tir depuis son arrestation en janvier 2014. Nous l'avons rencontré en détention. Nous avons rencontré ses proches, nous sommes régulièrement en contact avec ses avocats et ses proches. Notre soutien, c'est continuer à faire du plaidoyer, faire de la campagne pour demander sa libération. C'est le rôle que nous jouons depuis son arrestation et nous continuons à jouer. On continue également à demander aux autorités, en cas de libération, de pouvoir assurer sa sécurité.
Il a évoqué un cas dont on ne parle pas beaucoup, le cas des forgerons en Mauritanie. On a souvent entendu parler de l'esclavage, mais pas souvent d'autres castes, par exemple, comme les forgerons.
Oui, absolument. La société mauritanienne est une société très, disons, divisée au niveau des castes. Amnesty, dans notre travail, nous continuons à défendre les défenseurs des droits humains qui travaillent sur ces questions liées aux discriminations. Et on continue aussi à demander aux autorités de leur permettre de faire leur travail dans un environnement sain, calme et sans recevoir des pressions ou des intimidations.
Kine Fatim Diop, chargée de plaidoirie à Amnesty International. Au Libéria, le parti du candidat George Weah a haussé le ton hier, 2 jours après la suspension du processus électoral dans le pays. Il réclame la tenue du second tour, dont la date n'est pas encore fixée. Yacouba Ouédraogo.
Ansou Kony, porte-parole du Congrès pour le changement démocratique, parti de George Weah, a appelé la commission électorale à agir vite pour remettre le processus électoral sur les rails. Il a averti que toute tentative de détournement de la Constitution par des astuces politiciennes serait rejetée. George Weah a appelé ses partisans à rester calmes pendant la phase d'examen des recours de ses adversaires qu'il a qualifiés de fauteurs de troubles. Le second tour de la présidentielle devait opposer mardi dernier l'ancien footballeur au vice-président sortant Joseph Boakai. La Cour suprême a toutefois suspendu le processus électoral. Elle a ordonné à la commission électorale d'examiner au préalable un recours du Parti de la Liberté de Charles Brumskine, arrivé troisième. Ces procédures pourraient prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique centrale, Guinée équatoriale. Quelque 300 000 électeurs équato-guinéens sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives, sénatoriales et municipales sans grand suspense, tant la domination du parti au pouvoir reste grande. Mais l'opposition n'en affiche pas moins son ambition de peser au Parlement. Selon les experts, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, au pouvoir depuis 1987, devrait rester seul maître à bord au Parlement, dont il occupe aujourd'hui 99% des sièges et sur lequel il exerce un contrôle sans partage depuis la fin du monopartisme en 1991. Zimbabwe, après avoir été limogé, l'ex-vice-président zimbabwéen a fui le pays, craignant pour sa vie. Emmerson Mnangagwa est sorti du silence pour s'en prendre violemment au couple présidentiel qui dirige son pays. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
En fuite en Afrique du Sud, Emmerson Mnangagwa a promis hier de défier le président Robert Mugabe et son épouse Grace, qui se prennent, selon lui, pour des demi-dieux et ne servent que leurs propres intérêts. Dans un communiqué, il a précisé que le président est une personne entêtée qui pense être en droit de diriger jusqu'à sa mort le Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a aussi dénoncé la mainmise du président et de sa femme sur le parti au pouvoir, le ZANU-PF, faisant la promesse de revenir au Zimbabwe pour diriger la formation politique. Lundi, Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile en raison de son caractère impitoyable, avait été démis de ses fonctions pour son manque de loyauté envers le chef de l'État. Une décision interprétée par l'opposition comme une stratégie destinée à laisser le champ libre à la première dame qui succéderait ainsi à son mari à la santé chancelante.
La conférence de l'ONU sur le climat, la première depuis l'annonce du retrait américain, est en cours depuis lundi à Bonn en Allemagne et se poursuivra jusqu'au 17 novembre. L'un des objectifs de cette conférence est de fixer de façon concrète les règles d'application de l'accord de Paris sur le climat. Fleury Pabangi, directeur du Fonds national pour l'environnement en Centrafrique, estime que l'accord de Paris tient bon en dépit du retrait des États-Unis.
Même si c'est une première après le retrait des États-Unis, mais les autres pays, surtout de l'Union européenne, sont beaucoup plus lassés pour mobiliser les autres pays à s'accorder sur l'accord de Paris. L'Allemagne, au niveau de l'Europe, dispose d'une enveloppe très importante pour le financement. La France, les autres qui ont aussi mis des enveloppes beaucoup plus à l'endroit des pays africains, surtout les pays en voie du développement. Parmi ces actions, les points ont été mis sur l'engagement politique, la planification et l'engagement multidimensionnel. Il est maintenant question que chaque pays puisse élaborer son NDC, c'est-à-dire les contributions nationales déterminées, afin qu'il puisse avoir accès au financement, par exemple dans le cadre de l'atténuation et adaptation.
Fleury Pabangi, joint à Bonn en Allemagne. Le Maroc s'est doté de satellites. L'engin a été mis en orbite mercredi. L'Égypte et l'Afrique du Sud étaient jusqu'alors les seuls pays africains à posséder un tel équipement. Moustapha Tossa, journaliste marocain, y voit le symbole des ambitions continentales du Maroc.
Les Marocains l'aperçoivent comme une fierté supplémentaire parce qu'ils voient déjà le pays en train de s'imposer comme une puissance africaine incontournable, comme une puissance méditerranéenne, comme une porte de l'Europe vers l'Afrique. Et ça rajoute à la fierté marocaine le fait que le royaume puisse entrer en possession d'une technologie rare, d'une technologie chère.
Quel est le coût pour le pays ?
Un demi-milliard d'euros. C'est la somme qui a été lancée dans la presse. Et quand on voit les usages et les objectifs que cela permet d'atteindre, ça vaudrait le coup de tenter l'aventure.
Moustapha Tossa, journaliste marocain, au micro de Morgan Guiriec. Et pour terminer, le président américain Donald Trump poursuit sa visite en Chine avec de nombreux contrats commerciaux à la clé. Dans le cadre de sa tournée marathon en Asie, il a exhorté Pékin à intensifier la pression sur la Corée du Nord en soulignant que le temps était compté pour faire face aux défis nucléaires nord-coréens. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.